Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Le vote des sénateurs prévu aujourd'hui en Ituri, à nouveau reporté au 24 mai prochain, c'est le deuxième report annoncé par la CENI. Raison, il faut attendre la publication des résultats définitifs de l'élection des députés provinciaux par la Cour d'appel de l'Ituri, explique la centrale électorale. Dans l'actualité aussi, ce calvaire des habitants d'une partie de Ngaliema ainsi que de Selembao et Mongafula ici à Kinshasa, il devient difficile pour eux d'atteindre le centre-ville. En cause, la fermeture à certains endroits des avenues Nguma et Benseke, avenues fermées pour travaux, reportage à suivre dans ce journal. Et puis, l'invité de ce matin, Kedani Mensa, porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma. Il parle notamment des activités de la force onusienne pendant la semaine écoulée, ainsi que le bilan des activités du contingent pakistanais qui a fini sa mission en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Le vote des sénateurs prévu aujourd'hui à l'Assemblée provinciale est renvoyé au 24 mai prochain, cela en attendant la publication des résultats définitifs de l'élection des députés provinciaux par la Cour d'appel de l'Ituri. Cette décision de la Commission électorale a été rendue publique hier à Kinshasa dans un communiqué officiel. Entre-temps, à Bunia, le bureau de l'Assemblée provinciale s'est dit bloqué pour la suite du processus électoral. Isaac Remoyope.
C'est le deuxième report annoncé par la CENI qui avait fixé la date de l'élection des sénateurs au 8 mai. La campagne électorale pour les candidats scrutés a été suspendue. Pour la CENI, les députés provinciaux de l'Ituri doivent attendre la publication définitive des résultats des élections du 20 décembre 2023 qui a été annulée partiellement par la cour d'appel de l'Ituri pour raison d'inéligibilité de Thomas Lubanga et de Kawapanga Mandro Yves. Cette juridiction avait également ordonné à la CENI de réattribuer des sièges, notamment dans les circonscriptions de Bougnaville et du territoire d'Irumu, ce qui traîne jusqu'à 6 jours. Les candidats sénateurs et les députés provinciaux se disent bloqués pour poursuivre le processus électoral. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Adaba Masumbuko.
Par rapport aux élections, il n'y a aucune activité. Sinon, déjà, on allait être saisi au plus tard le vendredi, puisque le dernier communiqué avait annulé la campagne électorale qui était précédemment organisée. Tant que la Cour d'appel se prononce, les candidats qui vont poursuivre auront plein droit d'attaquer ces résultats-là. Puisque le député, avant de devenir sénateur, doit être proclamé définitivement. C'est ce que nous attendons jusque-là.
Cette décision de la justice suscite des remous et des confusions chez les acteurs politiques de l'Ituri qui demandent à la Cour d'appel de lever ces suspens qui perdurent. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, au sujet du blocage de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge appelle à finaliser le choix des candidats à différents postes. Dans un communiqué signé mardi tard dans la soirée, Christophe Mboso, accusé de s'accrocher au perchoir de la chambre basse du Parlement, promet une actualisation imminente du calendrier publié le 26 avril dernier. De leur côté, plusieurs députés révoltés de ce qu'ils qualifient de prise en otage du Parlement par le bureau d'âge décident au cours d'envahir d'envahir le palais du peuple demain jeudi pour mettre fin à l'impasse orchestrée par le président du bureau d'âge, Christophe Mboso. Décision prise lors d'une réunion hier soir à Kinshasa. Autre nouvelle, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Tshiwewe, et son homologue des forces armées ougandaises ont eu un tête-à-tête le lundi au poste frontalier de Kassindi-Lubiria, environ 90 km au nord-est de Beniville. Au menu de la rencontre, l'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF, dénommées Tchouja, dans le territoire de Beni au nord Kivu, ainsi que dans ceux de Mambasa et Irumu en Ituri, le compte-rendu de André Kitenge.
Cette rencontre entre les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises avait pour but d'évaluer les opérations conjointes menées par les deux armées FARDC et UPDF contre les ADF dans la région de Beni et à Ituri depuis novembre 2021, en ressortir les points forts et les faiblesses. Sans être précis, le bilan présenté par les deux armées fait état d'un bilan de plusieurs commandants et combattants ADF neutralisés et d'autres capturés. Les deux chefs des armées ont convenu de mobiliser les moyens nécessaires afin d'accélérer gérer les opérations en cours pour rétablir la paix dans la région de Beni et dans une partie des territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Selon le porte-parole sortant des opérations Sokola 1, de nouvelles stratégies ont été mises en place par les deux chefs d'état-major en vue de relever les défis entravant la traque des rebelles des ADF dans la zone. Signalons que cette rencontre de haut niveau est intervenue 3 jours après celle tenue à Beni par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des FRDC et le commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise, le général-major Dick Olum. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Entre-temps, 360 violations des droits de l'homme sont enregistrées dans l'ensemble de la RDC en mars dernier, soit une baisse de 5% par rapport au mois de février. C'est ce qu'indique le rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme publié hier. Cette diminution, selon le rapport, est principalement due à une réduction du nombre documenté des victimes d'exactions perpétrées par les groupes armés dans les provinces en conflit. Contrairement aux périodes précédentes, ce sont les agents de l'État qui ont été responsables de la majorité des violations documentées dans l'ensemble du pays. Mais pour ce qui est des provinces affectées par les conflits armés, ce sont les groupes armés qui sont cités comme les grands violateurs des droits de l'homme. En outre, près de 140 violations graves affectant des enfants ont été répertoriées, ce qui représente une augmentation de 35%. En mars dernier, selon la même source, 35 personnes sont mortes en prison, soit 6 décès de moins par rapport à février 2024. Dans l'enseignement, nous sommes dans la cité de Minova. On signale une faible participation des élèves aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024. C'est le constat fait par plusieurs acteurs locaux dans cette partie du Sud Kivu, voisin du territoire de Massissi au Nord Kivu. Situation consécutive à la psychose qui règne depuis quelques semaines à Minova à la suite des affrontements et la menace de l'avancée des rebelles dans cette région. Ces absences d'élèves finalistes sont plus observées dans les centres de l'Institut Bobandana 1, 2 et 3 qui regroupe les élèves venus de Massissi, notamment des régions de Mfunishanga, Karuba et Matanda. Sifa Maguru revient sur la situation d'hier.
D'après nos sources, il s'observe un nombre très réduit de finalistes qui prennent part à ces épreuves débutées hier sur l'ensemble du pays. Nos sources justifient cette situation par plusieurs facteurs. Ce sont notamment les déplacements massifs des populations des Massissi qui font que les élèves sont absents aux examens. Nos sources affirment aussi que plusieurs jeunes élèves ont rejoint les groupes armés Wazalendo pour aller combattre les rebelles du M23. Cependant, pour les élèves du territoire de Calais au Sud Kivu, il se pose aussi un problème de manque des frais de participation, tout simplement parce que le Sud Kivu n'est pas concerné par la prise en charge des frais couverts par les gouvernements. Nos sources ont également constaté que les élèves qui prennent part aux examens ne traînent pas dans les salles. Ces derniers s'arrangent pour terminer plus tôt et rejoindre leur famille par crainte des affrontements ou des bombardements éventuels, affirment même les médias locaux de Minova. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, les habitants de la partie ouest de Kinshasa, notamment ceux de la commune de Ngaliema, Selembao et Mongafula, éprouvent à ce jour d'énormes difficultés pour atteindre le centre-ville. Cette situation est occasionnée par la fermeture à certains endroits des avenues Nguma et Benseke à la suite des travaux de réhabilitation en cours sur ces tronçons. Du coup, les habitants de cette partie de la ville sont contraints de faire des longs trajets avec plus de dépenses que d'habitude ou encore passer des longues heures dans des embouteillages. Reportage de Murphy Fika et Elvi Kunga.
Sous un soleil de plomb, les engins de l'entreprise Aron Sefou procèdent au décapage de l'ancienne chaussée. Nous sommes ici, sur l'avenue Nguma, dans son croisement avec l'entrée Montfleury. Les engins de cette entreprise, sous la supervision de l'office des voiries et drainages, assainissent la chaussée avant le coulage du béton. Ces travaux qui tirent en longueur estiment les usagers qui, en ce moment, éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer, comme les déplorent mesdames Rebecca et Fideli, qui habitent dans cette partie de la ville.
Le matin, c'est vraiment un chemin de la croix pour pouvoir venir au centre-ville. Je suis obligée, avec les enfants, de quitter la maison autour de 5h40, 5h45.
Avant, on prenait Zando directement. Maintenant, ce n'est plus Zando. Vous allez prendre Matadikibala, Matadikibala, Upen, et après, c'est pénible.
Par conséquent, elle souhaite la reprise du trafic sur cette route le plus vite possible.
Il termine les travaux de Ngouma. Dès qu'il termine, là, on a accès à ce chemin-là. Cette route-là, ça fait plus de mois.
L'avenue Ngouma, long des 5 km, s'étend de la place Kitambo Magasin jusqu'à l'entrée Binza Météo.
Direction la province du Sud-Ubangi, nous apprenons un grave accident de navigation survenu il y a une semaine dans la rivière Mongala. Au moins 18 corps pêchés, 200 rescapés et plusieurs disparus, d'après le dernier bilan provisoire. C'est une baleinière qui transportait des passagers et leurs marchandises en provenance d'un marché périphérique à destination de Akula et Binga. Le récit de Paul-Richard Malengela.
Des sources concordantes affirment que la baleinière HB Ville de Binga a connu un naufrage vers 22h heure du sud de Bangui. L'embarcation en bois avait à son bord des centaines de passagers et leurs marchandises. Ils revenaient du marché périphérique de Bokanga à environ 100 km du port d'Akula sur la rivière Mongala. Mais pendant la navigation nocturne sous la pluie, la baleinière se fait balloter par une forte tempête. C'est alors que la plateforme supérieure cède sous l'effet de la surcharge et ça va sur la coque. L'embarcation se disloque aussitôt, projetant à l'eau passagers et marchandises. Le drame se produit au large du village Bongomela, à 60 km en aval d'Akula. Selon les témoins, à peine 18 corps sont repêchés. Il y a aussi 200 rescapés, mais plusieurs disparus dont le nombre reste inconnu, à défaut de manifestes des passagers qui étaient à bord. Comme les victimes, la majorité de ces rescapés sont des commerçants. Ils ont tout perdu et ne savent comment reprendre leurs activités et prendre en charge leur famille. Ils lancent donc un cri de détresse auprès du gouvernement central afin de leur venir en aide. Bondaka, prochain Malengela, Radio Okapi.
Au Congo central, l'immeuble satellite en pleine ville basse de Matadi s'est effondré hier matin. Ceci intervient au lendemain de l'incendie de la cave et du rez-de-chaussée de cet immeuble qui abrite plusieurs appartements et maisons commerciales. Le maire de Matadi, qui vient de tenir une réunion de sécurité à ce sujet, rassure, les occupants ont été évacués pendant l'incendie. Dominique Nkodia évoque un mort et deux blessés graves. Le maire de Matadi explique la situation au micro de Nana Plurich Mambou.
Vraiment, nous sommes réveillés avec tristesse aujourd'hui. À Matadi, l'immeuble satellite s'est effondré. Un immeuble de 4 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 3 étages. Mais également, il y avait une cave qui servait d'entrepôt. Les rez-de-chaussée servaient des magasins. Alors, toutes les marchandises étaient gardées au niveau de la cave. Et c'est cette cave qui a pris feu hier lundi. Toute la journée d'hier, nous avons lutté contre cet incendie. Mais l'effet était tellement intense qu'aujourd'hui matin, l'immeuble s'est effondré. Mais déjà hier, nous avions aussi pris des dispositions pour demander à la population ou aux habitants des environs d'évacuer les quartiers parce que l'immeuble présentait déjà des fissures. Et heureusement, au moment de l'effondrement, il y a au niveau des habitants des quartiers, il n'y a pas eu de dégâts. L'immeuble s'est effondré, mais juste en s'enfonçant dans les entrailles de l'immeuble. Mais nous avons pris les dispositions pour fouiller les décombres. Donc les services de la Croix-Rouge sont là. Les sapeurs-pompiers sont toujours là. Nous avons également recouru aux engins qui vont nous aider à fouiller les décombres pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces décombres. Déjà hier aussi, on avait évacué tous les habitants de l'immeuble. Et donc voilà ce qui nous a épargné beaucoup de pertes en vies humaines.
La province du Lualaba est potentiellement riche en minerais, notamment le cuivre et le cobalt, mais avec une population pauvre. C'est ce que pensent plusieurs acteurs locaux rencontrés par notre reporter dans la ville de Kolwezi. Quelles sont les causes de ce paradoxe et que faire pour que la population bénéficie de toutes ces richesses? Tentative de réponse avec Grace Amzati.
Malgré des minerais importants produits par des entreprises actives dans le Lualaba, il se pose le problème de la gouvernance. Affirmation de Dona Kambola, membre de la société civile et expert des questions des mines et exploitation artisanale.
Le gouvernement provincial comme le gouvernement national ne travaille pas sur base d'un programme de développement. Vous verrez que la province perçoit beaucoup de taxes, mais qui ne permettent pas à contribuer aux autres secteurs comme l'agriculture. Et pourtant, le Lualaba reste une province à vocation agricole.
Pour sa part, Gauthier Kayombo, un autre acteur de la société civile et représentant de l'ONG Justicia S-Bel dans le Lualaba, estime que cette pauvreté est aussi due à une accaparation des richesses par un groupe d'individus.
Les trésors n'ont pas de zone où ils doivent travailler. Toutes les zones où ils travaillaient ont été octroyées aux industriels. Les petites carrières qui existent sont l'apanage des détenteurs de pouvoirs publics. On vous dira qui c'est un homme politique qui a cette concession, qui c'est l'enfant de tel homme politique qui a cela. Et aujourd'hui s'ajoutent les familles présidentielles qui ont presque tous les carrés miniers où les creuseurs pouvaient se débrouiller.
Pour pallier à ces paradoxes, tous ces acteurs proposent la bonne redistribution des richesses ainsi que la bonne gouvernance des ressources naturelles. Des retours d'écologie, grâce à Mzati Masanzi, Radio Kapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Kenya. Les fortes pluies et les inondations qu'elles provoquent continuent. Elles ont déjà fait 228 victimes. Depuis le week-end, les autorités procèdent à l'évacuation parfois de force des populations vivant en zone inondable. C'est notamment le cas dans les bidonvilles de Nairobi. Mais aujourd'hui, ces populations doivent affronter un autre problème, la propagation des maladies.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensa nous fait le point des activités de la force onusienne pendant la semaine écoulée. Il évoque entre autres le bilan des activités du contingent pakistanais qui a fini sa mission en RDC, ainsi que du don en matériel fait par le contingent chinois aux autorités congolaises avant leur départ de la RDC. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensa est avec Sifa Maguru.
Lieutenant-colonel Kedagni Mensa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole militaire de la MONUSCO. Pouvez-vous nous faire le point par rapport au bilan des activités du contingent pakistanais qui ont fini leur mission en RDC? Qu'en est-il jusqu'à aujourd'hui?
Après 20 ans d'engagement au Sud Kivu, le contingent pakistanais s'apprête à quitter définitivement la République démocratique du Congo. Au cours de cette période, le contingent a constitué l'essentiel des troupes de la MONUSCO déployées dans la province du Sud Kivu et leurs importantes contributions à la consolidation de la paix et à la sécurité ont été reconnus lors d'une cérémonie d'hommage qui s'est tenue le 25 avril 2024 à Kavumu, situé à 32 km de Bukavu. Le départ du contingent pakistanais s'inscrit dans le cadre du plan global de désengagement de la MONUSCO de la RDC, initié depuis début janvier 2024. Depuis 2003, date de leur premier déploiement, plus de 100 000 casques bleus pakistanais ont servi dans le sud de Kivu et 31 sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Les troupes pakistanaises étaient engagées dans les opérations militaires visant à protéger les civils et à maintenir la paix et la sécurité dans le sud de la RDC. À titre d'exemple, en 2017, en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo, le contingent pakistanais a empêché une coalition de groupes armés de prendre le contrôle de la ville d'Uvira. De même, en 2018, ils ont repoussé une offensive des groupes armés dans le haut plateau d'Uvira, protégeant ainsi plus de 120 000 déplacés internes. Au fil des ans, les casques bleus pakistanais ont protégé des millions de déplacés internes, dont beaucoup ont établi des camps autour de leur base. Sur le plan de désengagement, la MONUSCO transfère la responsabilité d'assurer la sécurité et la protection physique des civils aux forces de défense et de sécurité de la RDC qui continueront à assumer ces responsabilités à compter du 1er mai 2024.
Et pour retenir du don des matériels qu'a fait les contingents chinois aux autorités congolaises avant leur départ de la RDC?
Le contingent chinois de la MONUSCO a fait don de matériel et d'équipement au gouvernement congolais d'une valeur de 7,3 millions de dollars. La remise de ce don s'est tenue le lundi 29 avril 2024 au camp du contingent chinois à la périphérie de Bukavu. Ce départ du contingent chinois est une nouvelle étape importante dans le désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu, initié en janvier 2024. Depuis 2003, la compagnie du génie Travaux du contingent chinois soutient l'amélioration des infrastructures de la province. La remise d'aujourd'hui de 46 767 matériels de travaux de génie, y compris des bulldozers, des chariots, élévateurs, des camions à benne basculante, vise à aider les autorités à répondre à leurs besoins en matière d'équipement de construction et de diplôme et de développement. En outre, l'hôpital chinois déployé à Bukavu a fait don de 43 043 matériels, dont une ambulance, des véhicules de soutien et du matériel médical. La valeur totale de ces dons s'élève à 7 359 922 dollars. Le gouvernement de la RDC a promis d'en faire bon usage pour la consolidation de la paix et le développement social. Ce don de matériel témoigne de l'engagement de la mission de la MONUSCO à soutenir les efforts de consolidation de la paix et de développement en RDC. Ce don intervient aussi 2 semaines après que la MONUSCO et les autorités de la RDC ont rendu hommage au casque bleu chinois lors d'une cérémonie très médiatisée.
Et que peut-on retenir sur les actions de la coopération civilo-militaire entre les casquets bleus des Fataki et les populations locales? Là, nous sommes dans la province de l'Ituri.
Le 24 avril 2024, les casquets bleus de la base de Fataki ont conduit une activité civilo-militaire à l'école primaire Zouboula à Bali. Au total, 350 élèves, 179 filles et 171 garçons et 8 enseignants ont reçu des fournitures scolaires comprenant des cartables, des cahiers, des crayons, des gommes, des taille-crayons, des fournitures d'entretien pour l'école et des blocs notes personnels pour les enseignants. Cette initiative a reçu de nombreux éloges de la part de l'administration de l'école, des notables locaux et des chefs qui ont exprimé leur gratitude aux forces de la MONUSCO et en particulier au contingent népalais. En outre, en témoignage de leur dévouement à l'intégration communautaire et à la consolidation de la paix, les casques d'armée ont soutenu les habitants à l'entretien d'un terrain de football afin de favoriser l'unité et la cohésion pacifique à travers le sport. Grâce à ces efforts, cet engagement a favorisé la camaraderie et la cohésion pacifique entre le peuple Alur du territoire Mahagi et le peuple Lindou du territoire Djougou.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, merci beaucoup pour ces points.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Le porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma répondait aux questions de Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.